Jean 16, du verset 5 à 15. Jean 16, 5 à 15. Alors, je vais lire. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.
Merci beaucoup Naomi. Je me présente peut-être pour ceux que je ne connais pas, et vous êtes nombreux, que je ne connais pas. En fait, j'étais parmi vous il y a 10 ans. Je faisais partie de l'équipe Interfac, j'en étais parti pendant 2 ans. Peut-être les plus belles années de ma vie, à part mes années passées en Angleterre, bien sûr. C'est pour nos amis anglais, à Newcastle. Je suis devenu chrétien là-bas, lors de mes études Erasmus, j'ai fait des études d'anglais. Je suis parti étudier, je n'étais pas chrétien, j'en suis revenu, j'étais chrétien. Lorsque j'ai dit ça à mon père, il a failli s'étouffer en mangeant son petit déjeuner, lorsque je lui ai dit qu'il allait dans une église. Donc aujourd'hui je suis là et je dois beaucoup au GBU qui m'a beaucoup apporté dans ma foi. Sinon je travaille pour le GBU, donc vous voyez où ça mène tout ça, hein. Attention, hein. Si vous vous convertissez en Angleterre, si vous allez au GBU à Paris, je suis sinon CIR, secrétaire itinérant régional des GBU en Rhône-Alpes, dans la plus belle ville du monde, donc à Lyon, où nous avons cette année 7 groupes. Et dans la région, 12 groupes. Clermont-Ferrand, Dijon, c'est pas en Rhône-Alpes, mais c'est pas grave. Saint-Étienne, Grenoble et Valence. Je suis mari d'une seule femme. Jusqu'ici, tout va bien. Et je suis père d'une seule fille. Une petite fille qui a 11 mois depuis le 8 novembre dernier, qui naît le 8 décembre. Si vous êtes né un 8 décembre à Lyon, c'est vraiment c'est le jour de la fête des Lumières, quoi. Vous voulez vraiment que votre gamin soit né le 8 décembre. Elle n'a pas fait exprès, elle est née le 8 décembre. On est quand même très reconnaissant à Dieu de nous l'avoir accordé. Elle a bientôt donc 12 mois et bientôt 7 dents. Et j'ai appris depuis ce matin. Merci donc à Naomi d'avoir lu le passage. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je vais vous poser une question. D'accord ? Dans quelques secondes. Dieu n'a nul besoin de se déplacer là où il compte utiliser sa force agissante. Il lui suffit d'utiliser son Esprit Saint, capable d'atteindre les confins de la création. Une bonne compréhension de ce qu'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissante force agissante de Dieu, peut vous donner la certitude que Dieu réalisera toutes ses promesses. Quelle religion dispense selon vous cet enseignement selon lequel le Saint-Esprit, pardon, est une puissante force agissante? Est-ce que vous avez des idées? Quelle religion dispense selon vous cet enseignement sur le Saint-Esprit? Une puissante force agissante. Des idées? Ouais. Exact. Exact. Les témoins de Jéhovah extraits de leur site officiel. Mais les témoins de Jéhovah ne sont pas les seuls, pour le coup, à avoir une mauvaise compréhension du Saint-Esprit. Selon un sondage effectué en 2009 aux États-Unis, 58% des chrétiens, j'ai vérifié mes sources, 58% des chrétiens, ou peut-être de ceux qui se disent chrétiens, je ne sais pas, pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais un symbole de la puissance de Dieu. Un sondage de 2009. 58% des chrétiens ou des personnes qui se disent chrétiennes pensent que le Saint-Esprit n'est pas du tout une personne, mais simplement un symbole de la puissance de Dieu. Je serais vraiment curieux de savoir si cette statistique serait la même, était la même en France, où j'ai rencontré beaucoup de personnes, et c'est peut-être votre cas, qui sont vraiment sceptiques et parfois très méfiantes quand on leur parle du Saint-Esprit. Ça me rappelle l'histoire de ce jeune homme qui a lu l'histoire du baptême de Jésus dans la Bible. Vous savez, donc Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, et voilà ce que les évangiles rapportent. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça me rappelle l'histoire de ce jeune homme qui a donc lu cette histoire dans la Bible et qui demande un jour à un pasteur, « Monsieur le pasteur, Dieu le Père, je comprends, le Créateur de l'univers. Dieu le Fils, je comprends aussi, Dieu devenu homme dans la personne de Jésus de Nazareth, pas de problème. Mais qui est ce saint oiseau, cette sainte colombe ? » Voyez comment le Saint-Esprit peut parfois être mal compris. Alors le Saint-Esprit n'est ni un oiseau, ni une force, ni un symbole de la puissance de Dieu. C'est une personne. C'est l'enseignement biblique sur le Saint-Esprit. C'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Dieu, le Saint-Esprit, distinct du Père et du Fils. Mais attention, je vais dire un gros mot là. Consubstantiel. Distinct du Père et du Fils, mais consubstantiel. C'est-à-dire ayant la même nature, la même substance divine, qui va être envoyée après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus pour trois raisons que j'aimerais voir avec vous ce soir. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous allons voir premièrement qu'il va être à l'œuvre pour le bien des disciples. Deuxièmement, pour convaincre le monde. Et troisièmement, pour conduire les apôtres. Et j'aimerais prier avec vous avant de commencer. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour le privilège de pouvoir se réunir librement aujourd'hui pour lire ta parole. Et à l'heure où nous ouvrons ta parole, la Bible, nous prions que tu ouvres nos cœurs, que tu nous parles, que tu nous donnes ce que nous avons besoin d'entendre, que tu nous accordes ce dont nous avons besoin. De l'encouragement si nous sommes découragés, des réponses si nous avons des questions, de l'assurance, si nous nous posons aussi des questions. Bref, fais ton œuvre par ton esprit, au travers de ta parole. Nous te le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais bientôt mourir. Alors rassurez-vous, cette nouvelle ne me concerne pas, enfin, j'espère, elle concerne Jésus, qui après avoir passé, rendez-vous compte, 3 ans, c'est pas rien, 3 ans avec ses disciples, leur annonce, à partir du chapitre 13, que vous connaissez certainement, puisque j'ai des sources, et je sais que vous étudiez le livre de Jean et que vous êtes déjà passé par là, qu'à partir du chapitre 13, va commencer à dire à ses disciples que l'heure de passer de ce monde au Père est venue. Jean, chapitre 13, verset 1, qui va leur dire qu'il est avec eux, pour un peu de temps. Jean chapitre 13, verset 33. Et les disciples, à mon sens, ne comprennent pas très bien ce que Jésus veut dire. En fait, son départ est synonyme de quoi, vous savez ? De sa mort. Jésus va mourir. C'est ça qu'il est en train de dire à ses disciples. Je vais m'en aller. Je vais mourir. Mais les disciples, à mon sens, ne le comprennent pas. Je pense que c'est la suite du livre de Jean qui nous le révèle. Toutefois, ça ne les empêche pas du tout d'être tristes et troublés dans leur cœur. C'est pour ça que Jésus leur dit au chapitre 14, au verset 1, que votre cœur ne soit pas troublé. Mais les disciples sont troublés, tristes. Jésus leur a non seulement annoncé qu'il allait partir, mais aussi, tenez-vous bien, qu'il allait être trahi par l'un d'entre eux. Bonjour l'ambiance. Qu'il allait être renié, non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois. Par le plus zélé des disciples, Pierre, et que ses disciples, après son départ, après le départ de Jésus, vont être dispersés dans un monde hostile qui va les détester et les persécuter à cause de leur foi en lui. Bref, les amis, bon courage. Bon courage. Mais Jésus va les consoler. Comment ? Eh bien, de manière, comment dire, de manière vraiment surprenante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, de manière très surprenante, en leur disant qu'il vaut mieux, qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, que c'est dans leur intérêt, que c'est pour leur bien. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, dans un premier temps, le Saint-Esprit à l'œuvre, envoyé premièrement pour le bien des Juifs. Regardez encore avec moi les versets 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les disciples vont être dispersés dans un monde hostile qui va les détester, qui va les persécuter. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples pour les réconforter, pour les consoler ? Qu'il vaut mieux, qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Je n'invente rien. C'est Jésus qui dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Comment comprendre ? Comment comprendre ? Qu'y a-t-il, mais qu'y a-t-il donc de plus avantageux au monde que la présence physique de Jésus aux côtés de ses disciples ? Mais qu'y a-t-il de plus avantageux au monde que la présence physique de Jésus aux côtés de ses disciples ? Réponse ? Sa présence. Sa présence par son esprit. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive parfois de lire les évangiles et d'envier la situation des disciples. Ah, si seulement. Je me prends à rêver. Si seulement j'avais pu vivre aux côtés de Jésus. Si seulement j'avais pu le toucher. Si seulement j'avais pu entendre le son de sa voix. Si seulement j'avais pu le voir faire des miracles, ressusciter des morts. Si seulement j'avais pu prendre un café avec lui à McDo, quoi, à Starbucks, faire une étude biblique avec lui. Ça aurait été génial, quoi. Génial. Si seulement. Si seulement. Mais j'oublie peut-être que les disciples, et je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, que les disciples ont dû vivre avec deux désavantages majeurs pendant le ministère terrestre de Jésus. Deux désavantages majeurs. Premier désavantage, la présence de Jésus n'était que locale. La présence de Jésus en tant qu'homme en Israël, il y a 2000 ans, était limitée dans le temps et dans l'espace. Jésus ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Ce n'était pas possible. Quel bienfait le Saint-Esprit ! Quel bienfait le Saint-Esprit dont l'envoi va être possible après son départ ? Quel bienfait le Saint-Esprit va-t-il apporter aux disciples ? Je vous le demande. Il va les aider en étant toujours avec eux dans un monde hostile. Jésus avait tout compris. Il avait peut-être pris lui aussi. Il avait tout compris. Il sait très bien que ses disciples... Private joke. Il sait très bien que ses disciples vont être persécutés dans un monde hostile. Ils vont être dispersés. Et c'est ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres. Vous vous rappelez ? Jérusalem, la Judée... La Samarie, Rome, le reste du monde, il sait très bien qu'ils vont être persécutés dans un monde hostile, dispersés. Que va faire le Saint-Esprit ? Il va universaliser la présence de Jésus en la rendant disponible et accessible n'importe où et n'importe quand. Premier désavantage, la présence de Jésus n'était que locale. Deuxième désavantage majeur avec lequel les disciples ont dû vivre, pendant le ministère terrestre de Jésus, c'était que sa présence n'était qu'extérieure. Sa présence n'était qu'extérieure. En tant qu'homme, Jésus ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de ses disciples, dans leur cœur, pour vivre en eux. Quel bienfait le Saint-Esprit va-t-il leur apporter ? Quel bienfait le Saint-Esprit va-t-il leur apporter ? Il va internaliser, je ne sais pas si ça existe, j'ai cherché sur Google, il va internaliser la présence de Jésus. Il va la rendre possible, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. À l'intérieur. Vous voyez donc, Jésus s'en va, mais c'est pour le bien de ses disciples. C'est dans leur intérêt. Et c'est dans le vôtre aujourd'hui. C'est dans le mien. C'est dans le nôtre. Il va envoyer le Saint-Esprit qui va rendre sa présence, non plus locale, mais universelle. Si bien que quand les chrétiens du monde entier vont à l'église, aujourd'hui, par exemple, eh bien Jésus est là, au milieu d'eux, par son esprit, à Paris et dans le reste du monde. Si bien que quand vous êtes seul en train de faire un stand à la sortie de Jussieu, d'Orsay, des grandes écoles, de la Sorbonne. Ça m'est arrivé, je me suis retrouvé seul dans le froid. Les billes étaient parties faire des photocopies, je m'en souviens. On se sent très très seul ces moments-là, je peux vous dire quoi. T'es chrétien? Non, non. Mais c'est quoi ça? C'est une table avec des livres, je sais pas moi. On se sent très très seul dans ces moments-là. En fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Parce que Jésus est avec vous. Il est avec vous, en vous, par son esprit. Vous êtes son temple. Vous êtes sa maison. Vous ne pouvez pas être plus proche de Jésus que vous l'êtes actuellement. Pourquoi? Parce qu'il vit en vous. Sa présence n'est plus extérieure, mais intérieure. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel privilège! La présence de Jésus n'est plus locale, mais universelle. Elle est rendue accessible n'importe où, n'importe quand par son esprit. Elle n'est plus extérieure, elle est intérieure. Jésus vit en vous, si vous êtes chrétien, disciple de Christ, par son esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit va donc être envoyé, premièrement, pour le bien des disciples, mais aussi pour convaincre le monde. Accrochez-vous, ok? Versets 8 à 12, on y va? C'est le moment d'allumer son cerveau, là. Et quand il sera venu, il s'agit de l'Esprit Saint qui est clairement, enfin, le consolateur, le paraclète est clairement associé à l'Esprit Saint dans le livre de Jean, hein, Jean chapitre 14, verset 26. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, entre parenthèses, parce que les disciples sont peut-être trop affectés par ce qu'ils viennent d'entendre. Jésus va partir, ils vont être seuls, etc. Alors à propos de ces versets, Jean Calvin, que vous connaissez tous, j'espère, célèbre réformateur français, écrit dans son commentaire du livre de Jean, vous savez que Jean Calvin écrit beaucoup de commentaires, je crois ne pas me tromper en disant qu'il a écrit des commentaires sur tous les livres de la Bible, sauf un. Vous savez quoi? L'Apocalypse. Apparemment, je crois ne pas me tromper. Écoutez ce qu'il dit à propos de ce passage, c'est très intéressant. Je le cite. « Laissant là la diversité des expositions que l'obscurité de ce passage a engendré, traduction, vous me suivez, donc ce passage est obscur et l'obscurité de ce passage a apparemment laissé diverses expositions, diverses interprétations, je reprends, je dirais seulement ce qui me semble être conforme à la vraie intention du Christ. » Fin de citation. La question qui se pose, c'est quelle est la vraie intention de Jésus dans ces passages? C'est vraiment pas facile. J'ai sué sur ce passage et j'aimerais partager avec vous ma sueur. Ça va? Ok? Quelle est la vraie intention de Jésus dans ces versets? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, j'ai vraiment pas du tout la prétention d'avoir tout compris. C'est un passage qui n'est pas évident. Ok? Mais il me semble, en toute humilité, il me semble que ce passage fait principalement référence à l'œuvre du Saint-Esprit qui, à partir de la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit va être donné, d'accord, va rendre la prédication des apôtres, l'annonce de l'Évangile, vive et efficace pour frapper la conscience du monde. Pas de tout le monde en entier, peut-être pas de chaque personne dans le monde, mais des juifs et des non-juifs, qui représentent un peu l'ensemble de l'humanité. Pour leur montrer, pour leur révéler, pour faire toute la lumière, un peu comme la lampe du dentiste fait toute la lumière sur mes caries. Ok? Pour les convaincre de trois choses. Premièrement, verset 9, de péché parce qu'ils ne croient pas en moi. En fait, convaincre le monde de péché, si vous avez déjà lu le livre de Jean, c'est quelque chose que Jésus a déjà fait. Regardez ce que dit Jésus, verset 22 du chapitre 15. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Convaincre le monde de péché, il me semble que c'est ce que Jésus a déjà fait. Mais vous voyez, je pense que c'est ce que le Saint-Esprit va continuer à faire. Jésus a déjà fait ça par son enseignement. Il est venu convaincre le monde de péché. Il a condamné la corruption, la perversité de la nature humaine, l'infidélité des hommes qui l'ont rejeté, qui n'ont pas cru en lui. Mais il me semble que c'est ce que le Saint-Esprit va continuer à faire en rendant la prédication des apôtres, notamment à partir de la Pentecôte, hein, rendant l'annonce de l'évangile vive et efficace pour frapper la conscience des juifs et des non-juifs, pour convaincre le monde qu'il est coupable non seulement de ne pas avoir cru en Jésus, mais bien plus grave, de l'avoir fait mourir sur la croix. Et vous voyez, c'est exactement, à mon sens, c'est exactement ce qui s'est passé pour des hommes et des femmes qui ont eu le cœur vivement touché. Certaines traductions disent « transpercé » suite au discours de Pierre dans les Actes. Vous vous rappelez de ce passage ? Le Saint-Esprit est donné, d'accord ? Et là, Pierre commence à faire un discours, il annonce l'Évangile. « Vous avez fait mourir l'auteur de la vie, le prince de la vie. » Et là, que répondent les foules ? « Que devons-nous faire pour devenir chrétiens ? Notre cœur est transpercé, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Que répond Pierre ? « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il me semble que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a rendu la prédication des apôtres, l'annonce de l'Évangile vive et efficace dans le cœur de personnes qui ne croyaient pas en Jésus. Le Saint-Esprit convaincra donc le monde de péché, mais aussi de justice. Regardez le verset 10. C'est très logique tout ça, vous allez voir. De justice, car Jésus va auprès du Père et les disciples ne le verront plus. Après avoir révélé le péché du monde, que va faire le Saint-Esprit ? Je pense que là, ça s'inscrit dans le cadre d'une suite assez logique. Il va révéler la justice de Jésus. Vous allez tout de suite comprendre, je pense. Le monde a condamné Jésus pensant qu'il était coupable. C'est ça qui s'est passé. Crucifie-le, crucifie-le, cet homme est coupable de blasphème. Il est injuste, il mérite d'être crucifié. Mais Jésus a été, comment dire, innocenté, justifié par le Saint-Esprit. Et je vous pose une question. À quel moment de l'histoire du salut, Jésus a-t-il été justifié selon vous ? Des idées ? À quel moment de l'histoire du salut, Jésus a-t-il été justifié par l'Esprit ? À quel moment ? Hein ? Plus fort. Résurrection ? Absolument, absolument. Je pense que c'est exactement ce à quoi Jésus est en train de faire référence. Regardez le verset 10 encore. Car Jésus va auprès du Père. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Et les disciples ne le verront plus. Au moment où Jésus est allé auprès du Père. Au moment de sa résurrection, qui prouve qu'il était innocent. Qui prouve qu'il n'est pas mort pour ses propres péchés. Mais pour ceux du monde. Et que le seul moyen d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Le seul moyen. C'est de croire en lui. Par la foi. Ça va, vous comprenez ? On pourra en discuter si vous voulez après, hein, pour rentrer plus dans les détails. Le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, il va révéler au monde son péché, qui consiste à ne pas croire en Jésus. Deuxième étape, il va lui montrer, lui révéler, faire toute la lumière sur quoi ? Mais dans un deuxième temps, sur la justice de Jésus. Jésus était innocent. Troisièmement, de quoi le Saint-Esprit va convaincre le monde ? Très logique, de jugement. Regardez le verset 11. De jugement, parce que le prince de ce monde... Je pense que vous êtes. Enfin, je suis même convaincu que le prince de ce monde fait référence au diable ici, à Satan, à l'accusateur, car le chef de ce monde est jugé. Après avoir révélé le péché du monde et la justice de Jésus, que va faire le Saint-Esprit ? Le monde est convaincu de sa culpabilité, il est convaincu de la justice de Jésus. Qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit dans un troisième et dans un dernier temps ? Je pense qu'il va lui révéler, il va frapper la conscience des juifs et des non-juifs, de ceux qui ne croient pas en Jésus. Il va leur révéler la réalité terrible, effroyable du jugement. Il va lui révéler que s'il ne croit pas en Jésus, qui est juste, il sera jugé, écoutez bien, tout comme Satan l'a été à la croix. C'est pas facile à saisir comme notion, mais Satan a été jugé à la croix. Dans le sens où la mort de Jésus est mort sur la croix, condamné pour nous. Il a accepté de prendre sur lui le poids de nos péchés, d'être condamné à notre place. Satan a été jugé, suivez-moi, hein, dans le sens où la mort de Jésus l'a désarmé, l'a dépouillé, Colossiens chapitre 2, verset 15. Lui a enlevé tout pouvoir d'accusation. Pourquoi ? Parce que Jésus a déjà pris cette accusation sur lui. Il a déjà accepté d'être condamné à notre place, si bien qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Croyant en Jésus. Satan, du coup, est désarmé, dépouillé. Il n'a aucun pouvoir d'accusation sur ceux qui placent leur confiance en Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris cette condamnation, vous comprenez ? Il n'a plus aucune prise sur nous. En fait, la croix est un peu l'avant-première. Si vous avez déjà été au cinéma, un jour j'ai assisté à l'avant-première d'un film consacré aux Sex Pistols. J'avais fait mon mémoire de maîtrise sur les Sex Pistols, donc j'étais très heureux de pouvoir assister à l'avant-première de ce film. C'était à Paris, en 2000 il me semble. La croix est un peu l'avant-première du jugement dernier, après lequel Satan et tous ceux qui l'auront suivi quelque part, en refusant de croire en Jésus, la croix est un peu l'avant-première du jugement, dans le sens où, après ce jugement, Satan et tous ceux qui l'auront suivi en refusant de croire en Jésus seront jugés et condamnés pour l'éternité. C'est grave ce qui se passe là, on ne rigole pas. Et vous voyez, il me semble que c'est de cette réalité, mais terrible, effroyable, du jugement dernier, du châtiment éternel, que le monde sera convaincu principalement par l'intermédiaire des apôtres, de l'annonce de l'évangile, rendue vive et efficace par le Saint-Esprit. Ça va ? Ok. Est-ce que vous connaissez le questionnaire « Question suivante » ? Oui. Si vous ne connaissez pas ce questionnaire, il s'agit d'un sondage qui est très bien fait, qui a pour but simplement de sonder les croyances des étudiants. Donc c'est très bien fait. Hein. Si tu crois, il y a des questions qui sont adaptées à chaque catégorie. Donc si vous tombez sur quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, des questions qui correspondent tout simplement à sa situation. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu, par exemple ? Si quelqu'un croit en Dieu, d'autres questions. Puis si tu ne sais pas, pourquoi est-ce que tu ne sais pas ? Il y a une question dans la catégorie « Si tu crois en Dieu », et la question la voici, quel type de relation as-tu avec Dieu ? Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence ? Si vous avez déjà fait ce sondage, si tu crois en Dieu, quel type de relation as-tu avec lui ? Et là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous savez quelle est l'une des réponses les plus principalement données à cette question ? Je ne dis pas que c'est la réponse la plus fréquemment donnée. Est-ce que vous savez quelle est la réponse ou l'une des réponses, les plus fréquemment données à cette question ? Quel type de relation entretiens-tu avec lui ? Je fais tout pour essayer d'être juste. Je compte sur ma propre justice pour être déclaré juste aux yeux de Dieu. Et là, je vous pose une question. Je me pose une question, mais qui va convaincre ces personnes ? Qui va les convaincre de péché, de justice et de jugement ? Mais qui va prouver leur culpabilité objective ? Leur état de pécheur devant Dieu ? Comment vont-ils prendre conscience de la folie, de la pure folie, qui consiste à croire qu'ils peuvent être déclarés justes devant Dieu et échapper à son jugement sur la base de leur propre justice ? Qui va les convaincre de ces choses ? C'est pas moi en tout cas. C'est pas moi. Seul le Saint-Esprit en est capable. La vivacité et l'efficacité de notre prédication, de votre annonce de l'Évangile, du témoignage de votre foi, dépend totalement de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Cela ne dépend pas de nous. Alors de quoi dépendez-vous ? De quoi dépendez-vous quand vous annoncez l'Évangile à vos amis ? Quand vous les invitez au GBU pour qu'ils étudient la Bible avec vous ? Quand vous leur offrez un livre dans la série « Questions suivantes » par exemple, « Questions autour de Dieu ». Il est cadeau pour Noël. Un super livre qui répond à des questions, qui offre des éléments de réponse à des questions difficiles. De quoi dépendez-vous pour que ces personnes soient convaincues de péché, de justice et de jugement ? Qu'elles soient convaincues que le péché consiste à ne pas croire en Jésus, que Jésus est juste et que si elles ne croient pas en lui, elles n'échapperont pas au jugement de Dieu. Est-ce que vous avez déjà prié pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au travers de l'Évangile, au travers de la parole ? Qu'ils lisent ou qu'ils entendent. Le rôle du Saint-Esprit est de convaincre. Le nôtre est simplement d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la parole, d'en témoigner. Et nous pouvons avoir l'assurance absolue que cette parole est la vérité. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans un troisième et dans un dernier temps. Le Saint-Esprit va être envoyé, va être à l'œuvre pour le bien des disciples, pour convaincre le monde. Et troisièmement, pour conduire les apôtres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Relisons ensemble les versets 13 à 15. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous tenez dans vos mains, là, en ce moment, où vous avez sous vos yeux l'accomplissement de la promesse de Jésus dans ces versets. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été donné, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus, pour être conduits, guidés, inspirés dans quoi ? Dans la rédaction du Nouveau Testament, qui fait partie de la Bible que vous avez sous vos yeux. Ce soir, ils ont été guidés, inspirés, conduits dans la compilation des registres authentiques et éternels de la révélation promise, sortant directement des secrets du sanctuaire céleste. Pas beau ça ? C'est pas beau ? C'est pas moi, je vous rassure tout de suite, c'est Calvin. Les registres authentiques et éternels de la révélation promise, sortant directement des secrets du sanctuaire céleste. Le Saint-Esprit est venu pour aider les apôtres à se souvenir de ce que Jésus avait dit. Jean chapitre 14, verset 26. Pour les rendre capables d'annoncer les choses à venir, verset 13. C'est-à-dire la suite, à mon sens, du Nouveau Testament. Non pas de nouvelles vérités, mais toute la vérité. Vous saisissez la nuance ? Non pas de nouvelles vérités au sujet de Jésus, mais toute la vérité. Verset 13, au sujet de Jésus. La portée, les implications théologiques de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, du don du Saint-Esprit, de son retour et du jugement dernier. Bref, le Saint-Esprit est venu pour parler de Jésus. Regardez encore les versets 13 et 14. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit parle la langue de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas une autre langue que la langue de Jésus. Il ne dit pas autre chose que ce que Jésus a dit, et c'est comme ça que le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Vous comprenez le lien ? Comment est-ce que Jésus va être glorifié ? En conduisant les apôtres dans toute la vérité le concernant. La vérité qu'il a enseignée, qui le concerne, pour le faire connaître et reconnaître. Pour ce qu'il est vraiment, Dieu en personne, la parole créatrice de tout ce qui existe, votre créateur, mon créateur, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est venu pour conduire les apôtres dans toute la vérité au sujet de Jésus et ainsi le glorifier. Vous voyez le lien ? Est-ce que vous avez déjà organisé un dialogue veritas dans votre vie ? Si vous ne savez pas ce que c'est que le dialogue veritas, je vous invite à Lyon, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. Trois soirées pour répondre aux questions les plus fréquemment posées à Dieu. Le principe est très simple, d'une simplicité biblique. Vous avez un sondage à faire. Ce sondage consiste en une question. Si vous aviez une question à poser à Dieu, laquelle serait-elle ? Et là, les gens répondent, ok ? Et le but du dialogue veritas est d'organiser trois soirées au cours desquelles deux orateurs répondent à ces questions, mais brièvement, en 12 et 3 minutes. C'est hyper simple, c'est très dynamique et c'est très interactif, d'où le nom dialogue veritas. Est-ce que vous savez quelle est l'une des réponses, ou plutôt des questions les plus fréquemment posées dans le cadre de ce dialogue ? Encore une fois, je ne dis pas que c'est la question, la plus fréquemment posée, mais est-ce que vous savez laquelle c'est ? Alors, si Dieu existe, pourquoi le mal ? Ça fait certainement partie des questions, c'est la question number one, qui a été posée à lui en tout cas. Mais l'une des questions que j'ai beaucoup entendues, c'est la Bible est-elle fiable ? La Bible est-elle fiable ? Et je pose généralement trois questions à ceux qui me posent cette question. Mais la Bible n'a-t-elle pas été falsifiée ? La Bible est-elle fiable ? Je pose généralement trois questions très très simples à ceux qui posent cette question. Et je vous encourage à faire de même à ceux qui vous posent ces questions. Premièrement, si la Bible a été falsifiée, où a-t-elle été falsifiée ? Où ? Dans quel pays ? En Égypte ? En Israël ? Où ? Deuxième question, quand a-t-elle été falsifiée ? Quel siècle? Ok? Je veux savoir. Troisième question, qui a falsifié la Bible? Je veux savoir. J'ai placé toute ma confiance dans cette parole. Je veux savoir qui a fait ces choses. Je peux vous assurer que personne n'a jamais été en mesure de répondre à ces questions. J'ai laissé mon numéro de portable, mon email, les gens, oh oui, je fais des recherches et je te préviens. Je n'ai jamais, jamais eu aucune réponse. Que vous inspire ce soir la vérité du témoignage apostolique, l'inspiration du Nouveau Testament, de la Bible que vous lisez tous les jours, de l'inspiration, c'est-à-dire de l'œuvre miraculeuse de Dieu, qui par son esprit a souverainement guidé et conduit l'esprit de personnes pleinement humaines dans la rédaction de sa parole. Autrement dit, que vous inspire l'inspiration de la Bible? J'espère que cela vous inspire une grande confiance en trois choses, et c'est sur trois choses que j'aimerais m'arrêter ce soir. L'inspiration des Écritures devrait nous inspirer une confiance inébranlable en trois choses. Premièrement, l'infaillibilité. C'est un long mot, ça, hein. Au Scrabble, ça fait malheur. L'infaillibilité de la Bible, son inhérence. Le terme inhérence est peut-être un peu plus précis. La Bible est sans erreur quant à son sens. Et si vous n'êtes pas chrétien ce soir, si vous vous posez des questions, je peux vous assurer que je me suis posé beaucoup de questions avant de devenir chrétien. Lisez la Bible. Lisez-la. C'est la parole de vérité inspirée par l'esprit de vérité. Et quand vous la lisez, vous pouvez avoir l'assurance absolue de sa véracité, tant sur le plan historique que dogmatique. Est-ce que vous avez confiance en l'infaillibilité de la Bible que vous lisez? Premièrement, l'infaillibilité de la Bible. Deuxièmement, son autorité. La Bible est le sceptre de Dieu sur son peuple. C'est une citation, il me semble qu'encore une fois, c'est Calvin qui l'a dit, j'en suis pas sûr. Le sceptre de Dieu sur son peuple. Elle a le droit, le pouvoir légitime de régner sur nous, de déterminer ce que nous devons croire, penser, transmettre. Ça vous rappelle quelque chose? La devise des GBU. La conduite de notre cœur. La conduite de notre corps. De nos pensées, de nos actions, de nos jugements, de nos comportements. Est-ce que vous vous soumettez à l'autorité de la Bible dans tous les domaines de votre vie? Est-ce que vous voulez laisser Dieu régner sur vous par sa parole, déterminer ce que vous devez croire, penser, transmettre, faire ce que vous devez faire avec votre corps, ce que vous devez faire avec votre cœur? Infaillibilité, autorité, et dernièrement, une confiance inébranlable en son utilité. La Bible est en fait un peu comme un couteau suisse. J'avais un couteau suisse, étant plus jeune, je l'ai perdu, ou on me l'a volé. C'était très pratique un couteau suisse. Un cure-dent, un tire-bouchon, un petit couteau pour couper le saucisson pendant le pique-nique. C'est hyper pratique un couteau suisse, ça fait quasiment tout, quoi. Un outil multifonction. La Bible est un peu comme ça, un couteau suisse, utile pour enseigner, pour convaincre. La racine dans l'original est la même. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. De Timothée, chapitre 3, 16 et 17. Est-ce que vous utilisez ce couteau suisse? Est-ce que vous l'avez toujours sur vous, dans la poche? Est-ce que vous l'utilisez pour répondre aux questions de vos amis? Pour témoigner de votre foi, pour la défendre face aux objections contre la foi chrétienne. Mais surtout, 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 est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez pour que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole œuvre au travers d'elle de manière vive et efficace pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, pour que Jésus soit connu et reconnu, accepter et glorifier. Vous voyez le lien entre les deux? C'est par l'annonce de l'évangile, c'est par la prédication de la parole inspirée par l'esprit de vérité que le monde pourra être convaincu de péché et de jugement. Vous voyez le lien entre les deux, d'accord? Et que Jésus sera glorifié. C'est par l'intermédiaire de la prédication de l'évangile que le Saint-Esprit agira pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. et pour glorifier Jésus. N'est-ce pas là le but de votre vie si vous êtes chrétien, disciple de Christ? N'est-ce pas là le but ultime de votre vie? Glorifier Jésus en annonçant l'évangile qu'il vous a confié, en annonçant cet évangile aussi fidèlement que possible, en annonçant fidèlement ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait pour nous. Et si vous n'êtes pas chrétien ce soir, si vous vous posez des questions, si vous ne savez pas très bien où vous en êtes, je vous encourage vraiment, à la lumière de ce que nous avons dit, à prendre la Bible très au sérieux. À la prendre très au sérieux. C'est la parole inspirée de Dieu. Est-ce que vous prenez l'Évangile, la Bible, au sérieux? Est-ce que vous prenez au sérieux ce que Jésus a dit et a fait? Est-ce que vous êtes prêt à placer votre confiance en lui pour avoir la vie? C'est là le but de l'évangile de Jean, le but dans lequel il a été écrit. Et c'est ce que je vous encourage à faire. J'aimerais qu'on prie pour finir. Prions. On peut peut-être passer quelques secondes dans le secret de nos cœurs à laisser peut-être le Saint-Esprit agir au travers de la parole qu'on a entendue, à réfléchir sur l'œuvre du Saint-Esprit qui a été envoyée d'une part pour le bien des disciples. La présence de Jésus n'est plus locale mais universelle, il n'est plus extérieur mais intérieur. Le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre le monde de péché. Le péché consiste à ne pas croire en Jésus, de justice, à croire qu'il était juste, de jugement. Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire les apôtres dans toute la vérité au sujet de Jésus et ainsi à le glorifier. De telle sorte que c'est par l'annonce de l'Évangile que le monde pourra être convaincu de péché, de jugement et que Jésus sera glorifié. On peut réfléchir quelques secondes dans le secret de nos cœurs aux implications de ce que nous avons vu. Seigneur, merci infiniment parce que ta parole est une parole vivante. Elle est rendue vive et efficace dans nos cœurs, dans notre conscience, par l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Si nous sommes chrétiens ce soir, merci de nous avoir convaincus de péché, de justice et de jugement, pour que nous puissions croire en toi et te glorifier. Si certains d'entre nous se posent des questions, s'il te plaît, que ton esprit soit à l'œuvre, pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.